c'était l'idée de faire vraiment une approche grand public, hein, donc je ne vais pas faire d'approche technique. Donc je sais que vous avez un cours sur les comics et puis vous avez un cours sur les héroïnes, c'est ça, hein, dans la science-fiction, donc c'est bien. Alors moi je vais vous parler de ce que je connais, un petit peu du moins, c'est-à-dire en fait, et ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire la naissance de la science-fiction, non pas comme on l'enseigne ou comme on la voit de manière classique avec Jules Verne il y a 150 ans, puisqu'en gros, 5 semaines en ballon, c'est 1863, donc l'année prochaine c'est 150 ans. Mais je vais vous voir avec vous la naissance de la science-fiction par le biais de l'utopie et comment, c'est l'une des choses que j'aime bien étudier, comment finalement on voit un glissement très progressif et qui passe par les sciences, qui passe notamment par l'astronomie, de la, je dirais, de l'utopie à proprement parler à la science-fiction et peut-être vous montrer comment ce glissement, quelles sont les raisons de son glissement. Pourquoi, d'une certaine manière, il était un peu inévitable, et pourquoi, aujourd'hui encore, la science-fiction me paraît être le prolongement de l'utopie. Et ma formation, moi je suis historien des idées politiques, donc évidemment m'amène à justifier cela par des idéologies et par un contexte intellectuel que je vais essayer de reprendre avec vous. Donc je vais vous donner un petit peu, c'est ce que je dirais là, réglage préalable à l'observation, comme si on faisait une observation astronomique. Je vais vous rappeler les magnitudes utopiques à travers le temps qui vont nous amener de la naissance de l'utopie, et on va essayer de faire quelque chose peut-être un peu d'interactif, jusqu'à la victoire, au triomphe de la science-fiction. Vous voyez, j'ai pris deux dates, 1516 et 1988. On va faire un petit quiz en même temps, on va voir si certains d'entre vous ont les bonnes références. Mais je vous rassure, évidemment, je joue avec vous et il ne s'agit pas du tout ici de faire un concours de connaissances, mais plutôt de vous amuser. Alors, 1516, un juriste anglais récalcitrant donne naissance à l'utopie. Un juriste anglais récalcitrant donne naissance à l'utopie. 1516, 16e siècle, de qui s'agit-il ? Thomas More, bien sûr. Sir Thomas More, maintenant, tous ceux qui sont accoutumés des séries télé ne manquent pas de savoir que Thomas More était le chancelier d'Angleterre sous Henri VIII Tudor, puisqu'on le voit très souvent dans la série des Tudors. Alors 1516, c'est effectivement Thomas More, Sir Thomas More, qui va écrire pour la première fois l'Utopie, ou Topos, c'est un néologisme qu'il crée, donc c'est vraiment lui l'inventeur de l'Utopie au sens terminologique, ou Topos, ça veut dire littéralement le lieu de nulle part. Alors il y a une ambiguïté sur le ou Topos, en réalité, si on prend la racine grecque véritablement, c'est à la fois « où » et à la fois « et où ». Et « et où », ça veut dire aussi le bonheur, le lieu de la perfection, le lieu de l'harmonie. Et en fait, cette ambiguïté marque un peu la naissance de l'utopie, c'est-à-dire qu'on n'est jamais certain, en particulier avec les utopies britanniques, qui sont quand même les plus intéressantes à étudier souvent, on ne sait jamais si on est dans un lieu qui n'existe pas ou dans un lieu qui pourrait exister et qui serait le lieu du bonheur parfait. Et finalement, Thomas More joue avec nous, c'est-à-dire que lorsqu'il écrit l'Utopie, c'est une œuvre de jeunesse en 1516, lorsqu'il écrit l'Utopie, il affecte de décrire un lieu qui existe, dans une île lointaine, et en même temps, il décrit un lieu idéal. Donc il y a cette ambiguïté entre l'idéal inaccessible et le lieu du bonheur parfait qui serait caché quelque part. Alors ce juriste anglais, pourquoi il est récalcitrant ? Parce que c'est un juriste, les bons juristes sont toujours récalcitrants. Il est récalcitrant avec son roi, Henri VIII, qui voulait absolument lui faire valider, en tant que chancelier, l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Alors ça, c'est ce qu'on voit bien aussi dans la série des Tudors, évidemment. Alors les raisons juridiques sont très précises. En réalité, c'est du droit canon, hein, du droit canonique, du droit de l'Église catholique, qui, au XVIe siècle, est très importante et d'autant plus importante qu'on est aussi au début de la réforme protestante, hein, puisqu'en 1517, c'est les 95 thèses de Calvin qui vont, de Luther, pardon, qui vont être diffusées. Et donc l'idée de Thomas More, c'est évidemment que le raisonnement juridique doit primer sur l'action politique. Et donc en tant que chancelier, Thomas More est attaché à la rigueur juridique des décisions du roi. Et donc il refuse évidemment de valider l'annulation du mariage avec Catherine d'Aragon, pour permettre à Henri VIII d'épouser Anne Boleyn, et ça l'amène d'abord dans la tour, isolement dans la tour, puis ça l'amène ensuite à être décapité. Alors c'est lui qui donne naissance à l'utopie. Dans l'utopie, il décrit le contraire de l'Angleterre qu'il connaît, c'est-à-dire ça n'est pas l'Angleterre de la démesure, c'est l'Angleterre de la raison. Ça n'est pas l'Angleterre de la souveraineté à tout craint, c'est l'Angleterre du droit, et c'est une Angleterre qui n'existe plus. Et il se sert de l'utopie comme un outil de dérision et de contestation politique. Alors, par exemple, les utopiens dédaignent toutes les pierres précieuses et toutes les matières que nous considérerions comme nobles, et en réalité se jouent des représentants qui parfois viennent les voir, couverts de pierreries, alors que pour eux, les pierreries sont comme des billes pour les enfants. Alors, on n'est pas dans la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui manque à cette utopie de Thomas More pour être de la science-fiction ? Dites-moi. Qu'est-ce qui manque à cette première utopie, véritablement, qui pourrait nous la faire voir comme de la science-fiction ? D'après vous ? C'est un monde qui n'existe pas, donc ça pourrait être un récit de science-fiction sur un monde qui n'existe pas. C'est un monde avec une idéologie, une structure, des institutions, un peuple, donc tout ça c'est très fréquent dans la science-fiction. Le moindre auteur de science-fiction peut créer des mondes. Qu'est-ce qui manque dans cette utopie pour être véritablement, qui pourrait la faire considérer comme la naissance de la science-fiction ? Oui, très bien, les aspects techniques. Il n'y a pas du tout, chez Thomas More, de réflexion technique. En réalité, il s'intéresse surtout à l'agriculture, essentiellement, et il passe de longs moments à décrire les structures agricoles de l'île, donc de son île d'utopie. Mais il n'y a pas du tout d'anticipation, de projection ou de réflexion sur la technique. Or, on le verra, la science-fiction va naître comme la réflexion sur l'objet technique, véritablement. Alors, j'ai quelques illustrations, d'ailleurs, je réalise, que je peux vous montrer en parallèle, puisque je les ai préparées pour vous. Alors, où est-ce que je les ai mises ? Voilà, ici. Donc voilà, on a simplement ici l'utopie de Thomas More, vous voyez qu'il y a une des représentations classiques que l'on trouve et qui a été diffusée en latin, bien évidemment, à travers toute l'Europe. Alors, on a quand même quelque chose de fondamental qui est penser un autre monde qui n'existe pas. Et je demande de vous retenir ça aussi, penser un monde qui soit meilleur que le monde réel. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup, vous allez voir, retrouver dans le processus de naissance de la science-fiction. On est aussi en pleine Renaissance, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une phase où les révolutions scientifiques vont changer la perception du monde. Et la domination idéologique et canonique de l'Église catholique va être petit à petit battue en brèche. Ce n'est pas que la réforme protestante qui le provoque. 1602, on est au début du grand siècle. On est dans ce siècle qui va voir aussi le triomphe d'une part des absolutismes et d'autre part des contestations idéologiques de la domination de l'Église catholique, avec de très nombreux pays qui vont basculer dans la réforme protestante. Notamment une bonne partie de la continuation du Saint-Empire romain germanique. Alors 1602, frémissement du XVIIe siècle, un moine italien contestataire décrit la Machina Mundi. Un moine italien contestataire décrit la Machina Mundi. De qui s'agit-il ? Oui, Tommaso Campanella. Fra Tommaso Campanella, alors c'est un dominicain. Et c'est un dominicain qui fait partie de ce que l'on appelle, en histoire des idées politiques, les novatores. Les novatores, ce sont ces penseurs qui ne sont pas des libres penseurs, parce que, bien important de préciser, Campanella n'a jamais remis en cause la position du pape. Donc il n'est pas un réformateur, il n'est pas un protestant, et il n'a jamais attaqué le dogme, les fondements de la foi. Donc il n'est ni un hérétique, même s'il a été accusé d'être un hérétique, ni un protestant. À aucun moment, il reste un fervent catholique, défenseur de la papauté et défenseur de, de l'orthodoxie catholique. Alors ce moine italien contestataire, d'origine calabraise, va en réalité décrire ou écrire une autre utopie qui s'appelle la Città del Sole, la cité du soleil. Et dans cette utopie, la cité du soleil, il va introduire ce que n'avait pas fait Thomas More. Il va introduire une dimension non pas encore technique, mais une dimension de théorie cosmologique. Alors voilà ici une représentation, une parmi de nombreuses représentations de la cité du soleil. Alors ce qui est intéressant chez Campanella, on n'est toujours pas dans la science-fiction. On ne peut pas se permettre de dire que Campanella a écrit un récit de science-fiction, ça n'est pas le cas. Mais on a atteint un stade supérieur, c'est-à-dire que on imagine un monde idéal, on imagine une cité qui est la cité du bonheur, donc qui correspond bien à la définition qu'en a donné Thomas More. Mais en plus, on y ajoute, et c'est nouveau, une justification scientifique, mais purement théorique. C'est-à-dire c'est un travail sur la connaissance scientifique, pas encore sur, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, pas encore sur l'objet technique. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien tout simplement, Campanella prend la défense de Galilée et de Copernic et il va mettre en avant l'héliocentrisme. Notamment, il s'inspire des théories de Copernic et il met en avant l'héliocentrisme, c'est-à-dire qu'il choisit dans sa cité de reprendre... Alors c'est un homme qui est vraiment à cheval entre deux époques. Il va reprendre l'héliocentrisme puisqu'au centre de la cité, il y a sept enceintes dans la cité du soleil. Les sept enceintes qui chacune portent le nom d'une planète. Alors c'est une planète connue hein, à l'époque de Campanella en fonction des instruments d'observation qui permettaient de voir les planètes du système solaire. Donc évidemment ça, il ne s'agit en fait que des planètes connues jusqu'à Saturne, il ne va pas plus loin, hein, il s'arrête à Saturne. Et parmi les planètes il met la Lune, hein, et en, la perception encore du rapport Lune-Terre n'est pas évident. Mais surtout le plus important c'est que il abandonne le géocentrisme traditionnel qui jusqu'à maintenant avait prévalu et qui était un peu le dogme développé dans les connaissances, je dirais, de l'Église catholique. Et il choisit de mettre au centre de sa cité le soleil. Et donc au centre de la cité, il place ce qu'il appelle le temple du soleil. Alors chaque enceinte ici, dans la cité du soleil, porte le nom d'une planète, jusque donc du centre donc, du système solaire, le soleil, jusqu'à Saturne qui est la dernière. Et les solariens, nous explique-t-il, c'est comme ça qu'il les appelle, les solariens n'ont pas reçu la révélation chrétienne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont, nous décrit-il avec beaucoup de finesse et beaucoup de malice, ils sont tenants, nous explique-t-il, d'un christianisme naturel, c'est-à-dire un christianisme qui, d'une certaine manière, n'aurait pas été pollué, gauchi, altéré par tout ce que l'Église catholique a fait depuis, je dirais, les évangiles. Alors, cette cité du soleil, elle a été considérée par l'Église et par la papauté comme un texte hérétique. Et ça a valu à Tommaso Campanella 27 années d'emprisonnement et de torture. C'est un contemporain de Giordano Bruno qui a été brûlé hein, par l'Inquisition, pour avoir affirmé la pluralité des mondes. La seule différence entre Bruno et Campanella, c'est que Campanella, lui, est revenu, a avoué sa faute, a reconnu sa faute, mais il est quand même resté emprisonné pendant 27 ans. Alors, il y a un très bel ouvrage de Jean Delumeau chez Fayard, qui s'appelle « Le mystère Campanella », que je vous conseille, qui parle assez peu de la Cité du Soleil, mais qui explique le calvaire subi par Tommaso Campanella, pendant ses 27 années d'emprisonnement, et il écrit La Cité du Soleil en prison. Et il la fera diffuser en latin beaucoup plus tard en France. Et c'est en France que Tommaso Campanella va se réfugier grâce à Richelieu et fera publier tardivement la Cité du Soleil. Alors la grande différence par rapport à Thomas More, c'est que la science est non seulement un élément constitutif de l'utopie, mais elle est même la clé de l'utopie de Tommaso Campanella. Alors il nous explique par exemple que l'éducation est la clé de la stabilité de la cité. Et comment les solariens séduquent-ils ? Alors ça c'est vraiment fabuleux. C'est quelque chose qui presque préfigure nos ordinateurs aujourd'hui. Ils n'ont pas de livres. Ils n'ont pas de livres parce que les livres, c'est une sorte de, nous explique Campanella, de connaissance statique, donc finalement qui n'est pas vivante. Alors comment séduque-t-il ? Eh bien, sur chaque enceinte de la Cité du Soleil, les murs sont gravés de toutes les connaissances disponibles. Et il explique, Tommaso Campanella, que les enfants, simplement en se promenant dans la cité, en marchant dans la cité, savent tout ce qu'il y a à savoir de toutes les sciences avant d'avoir atteint l'âge de 14 ans. Et d'une enceinte à l'autre, il nous décrit, alors je ne vais pas vous le décrire maintenant, je vous renvoie au texte, il nous décrit toutes les connaissances qui sont disponibles. Alors c'est évidemment toutes les connaissances de la religion, des religions, de toutes les religions du monde, donc il y a toute la diversité religieuse qui est prise en charge, toutes les connaissances de l'Antiquité, en particulier Platon y est de tout son long, hein, bien évidemment. L'influence platonicienne est très forte chez Tommaso Campanella. Et puis, toutes les connaissances, surtout de l'astronomie. Alors, par exemple, dans le Temple du Soleil, il nous explique qu'il y a deux maps mondes, une qui donne le nom de tous les continents de la Terre et de toutes les grandes villes de la Terre, et l'autre qui donne le nom de toutes les planètes et de toutes les étoiles connues par l'astronomie de son époque. Voilà. Donc, on a quand même un élément important qui nous rapproche de la science-fiction. Et cet élément important qui nous rapproche de la science-fiction, c'est la science comme, en quelque sorte, clé ou élément constitutif de la cité. Qu'est-ce qu'il manque pour faire de la science-fiction ? C'est un peu la même question que tout à l'heure. Donc, finalement, on peut faire presque la même réponse. Qu'est-ce qu'il manque pour dire que la Cité du Soleil est un récit de science-fiction ? Oui, les applications techniques, toujours. Alors, il y en a quelques-unes chez Campanella, mais elles sont minoritaires. Et finalement, ce qui est remarquable, c'est qu'elles ne changent pas la vie des solariens. C'est-à-dire que les solariens vivent comme s'ils vivaient dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'ils ont des applications techniques, Campanella ne s'y étant pas du tout. On sait qu'ils peuvent naviguer sous les océans, par exemple. On sait qu'ils ont des laboratoires où ils savent faire coaguler le sang des animaux. Mais finalement, ça ne change rien dans l'organisation sociale. Alors, il nous manque ça. Il nous manque ce qui est quand même la clé des origines de la science-fiction, l'impact social de l'objet technique. Et il n'y a pas d'impact social. C'est-à-dire que la cité est organisée exactement comme la République de Platon. La science apporte des connaissances, mais ne change pas la vie quotidienne. Alors, troisième étape, 1627, un chancelier visionnaire invente la recherche appliquée. 1627, un chancelier visionnaire invente la recherche appliquée. Alors, de qui s'agit-il ?
Chancelier de quel pays ?
Ah. Angleterre. Encore un Anglais. Alors, allez, je vous aide. C'est une œuvre inachevée. Au frontispice de cette œuvre, on voyait un vaisseau passer les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire symboliquement quitter l'ancien monde pour aller à la conquête d'autres mondes, ou en tout cas du nouveau monde. C'est un Anglais. C'est un chancelier qui a eu un parcours politique très important. Et c'est le fondateur de la... C'est lui qui a donné le modèle pour la Royal Society, c'est-à-dire les instituts de structure vraiment de recherche, des recherches scientifiques en Angleterre. Vous dit rien ? Sir Francis Bacon. Alors, Sir Francis Bacon, en 1627, écrit la Nouvelle Atlantide. Et la Nouvelle Atlantide de Sir Francis Bacon, on a là franchi un pas supplémentaire vers la science-fiction, puisque cette Nouvelle Atlantide de Sir Francis Bacon, qui est une œuvre inachevée, alors là, c'est vraiment amusant, parce que c'est un peu comme Thomas More. Finalement, c'est une œuvre qui a été considérée par son auteur comme une espèce de pochade, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faisait ça quand il avait le temps. C'est quelque chose de récréatif. Notez bien ce mot récréatif, parce qu'on va le retrouver. On fait ça, c'est un peu satirique, on s'amuse. Thomas More n'a jamais considéré que l'utopie était une œuvre majeure. Et je pense que s'il savait aujourd'hui à quel point on a mis l'utopie au pinacle, il serait extrêmement surpris. parce qu'il avait presque fait ça comme un amusement, critique, oui, mais comme un amusement. Et finalement, Sir Francis Bacon, pareil, c'est-à-dire que la Nouvelle-Atlantide, il ne l'a même pas terminée. Aujourd'hui, vous la trouvez disponible en poche chez Flammarion, et vous verrez bien, elle est en deux parties, la deuxième partie s'achève au milieu d'une description, ça n'est pas fini. Alors cette Nouvelle-Atlantide, est-ce que j'ai une représentation? Je ne suis pas sûr de la voir ici, parce que bon, après il y a toujours des petites représentations amusantes. Je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, on va continuer simplement sur le PowerPoint. Voilà. Donc dans cette nouvelle Atlantide, Sir Francis Bacon nous montre en revanche une science appliquée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la connaissance fondamentale qui serait au cœur de la cité. On est dans les conséquences techniques de la connaissance scientifique et comment ces connaissances techniques changent la vie politique et changent presque l'organisation sociale. Alors la Nouvelle-Atlantide, c'est une île pareille, idéale, cachée, toujours avec cette ambiguïté hein, de l'île à la fois idéale et à la fois qui existe peut-être quelque part. Et il nous explique que les Atlantes, alors c'est un clin d'œil évidemment à l'Atlantide platonicienne, il nous explique que les Atlantes peuvent tout faire. Ils ont des laboratoires de recherche qui sont des laboratoires souterrains. Et grâce à ces laboratoires de recherche, eh bien, ils peuvent voler dans les airs. Ils peuvent explorer les fonds marins. Ils peuvent créer de nouvelles espèces animales. Donc, ils peuvent pratiquer la génétique, ce que nous on appelle aujourd'hui les manipulations génétiques. Ils peuvent écouter l'harmonie des étoiles. Ils peuvent, bien sûr, ils ont des télescopes très puissants qui leur permettent de voir les parties de l'univers que jusqu'alors étaient inaccessibles. Ils peuvent conserver les aliments. Ils peuvent congeler, par exemple, des corps pour ensuite soigner ou créer de nouvelles espèces. Bref, tout est organisé autour de la science et autour de la recherche appliquée. C'est vraiment une grande différence avec Campanella, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la science pour savoir, il s'agit de faire de la science pour faire. Et c'est ce côté de la praxis, de l'action, qui nous rapproche de la science-fiction. Alors politiquement, c'est très intéressant aussi, puisque dans la nouvelle Atlantide, d'une certaine manière, la science est au pouvoir. Puisque la cité de Sir Francis Bacon est gouverné par ce qu'il appelle la Maison de Salomon. Et la Maison de Salomon, c'est une organisation scientifique qui détient le pouvoir politique. Et ce sont les scientifiques, les chercheurs, les savants qui orientent l'organisation politique de la cité. Le roi de la Nouvelle-Atlantide, en quelque sorte, a une fonction, on va dire, honorifique, et il suit les décisions de la Maison de Salomon. Alors, cette Maison de Salomon, elle est organisée, évidemment, selon certaines strates hiérarchiques, mais surtout, elle a une mission particulière, elle doit espionner les autres peuples. Et on découvre quelque chose d'absolument remarquable, on est en 1627, on est en plein cœur du grand siècle, on est à l'ère des grands absolutismes, hein, c'est l'absolutisme français, l'absolutisme espagnol, et on découvre l'espionnage industriel. Les Atlantes de Sir Francis Bacon explorent tout leur environnement, mais vont aussi dans les autres cités, vont aussi vers les autres nations pour en ramener les découvertes techniques et pour accélérer leur progrès technique. Et il y a une idée très chouette, très nouvelle, quelque part, c'est l'idée que celui qui maîtrisera la recherche appliquée maîtrisera le progrès technique et donc pourra gouverner le monde. Et le but de la Maison de Salomon, c'est véritablement de gouverner le monde par la science. Alors ça, c'est une attaque directe contre l'Église catholique. Et en 1627, vous savez, hein, vous en rappelez sans doute, l'Angleterre s'est profondément éloignée déjà du catholicisme. et la dialectique entre, je dirais, le catholicisme des Stuarts et puis ce qui deviendra ensuite la monarchie parlementaire anglaise avec le Bill of Rights de 1689, montre bien que ce chancelier ici est parfaitement dans son époque. L'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de renoncer au dogmatisme classique de l'Église catholique, de dépasser le dogmatisme qui a été en quelque sorte le carcan de toutes les grandes monarchies jusqu'au XVIIe siècle, et d'avancer, d'accélérer le progrès humain. Quelque part, on entre presque dans la science-fiction avec une conviction qui donnera plus tard naissance au ce qu'on appellera le scientisme, l'idée que l'homme doit, par la science, déployer ses potentialités et conquérir le monde, et que son environnement attend d'être conquis par lui. C'est très symbolique aussi, puisqu'il prend le symbole de l'Atlantide. Or, je vous rappelle que l'Atlantide, chez Platon, était, dans le Critias de Platon, était considéré comme l'opposé de la République. Hein, si on voulait faire remonter l'utopie à Platon, on pourrait dire, hein, de façon anachronique, hein, parce que pour moi, l'utopie ne naît qu'au XVIe siècle, mais on pourrait dire que la cité d'Atlantide, l'Atlantide platonicienne, est le contraire du bonheur. Elle est marquée par la démesure du dieu Poséidon qui lui a donné naissance. Alors qu'au contraire, la République, très sage, très philosophique, elle est la vraie cité idéale. Or ici, Sir Francis Bacon choisit justement l'Atlantide pour bien montrer que le savoir et le savoir technique ne doit pas être freiné par quelque dogme que ce soit. Alors il y a eu une influence très importante, hein, puisque c'est Sir Francis Bacon qui va donner le modèle de la Royal Society, qui accélérera la recherche britannique. Toujours au XVIIe siècle, j'ai passé un petit peu de temps sur Bacon, mais il est vraiment, pour moi, on est presque arrivé à la science-fiction. Il manque encore quelques éléments, mais on arrive petit à petit vers la science-fiction. 1634, un astronome allemand rêve d'une utopie lunaire. Kepler, très bien, Johannes Kepler. Alors Kepler, bon évidemment c'est un peu excessif de le qualifier d'astronome allemand, effectivement, parce que l'Allemagne n'est pas encore une nation en tant que telle, mais il rêve d'une utopie lunaire, en effet, puisqu'il va, Kepler, publier un texte très particulier qui s'appelle le songe, le somnium. Et dans ce songe, qu'il publie en 1634, eh bien qu'est-ce qu'il nous raconte ? Un voyage jusqu'à la Lune et une rencontre avec les habitants de la Lune, les Sélénites. C'est le premier voyage imaginaire scientifique décrit par un auteur. L'utopie n'est plus simplement une utopie sur le monde, c'est-à-dire dans une partie du monde, de la Terre qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas simplement une île perdue quelque part, ça devient la conquête véritablement d'un autre monde. Et ici, en 1634, Kepler nous raconte, nous décrit une lune habitée par des sélénites qu'il rencontre, le songe de Kepler. Alors évidemment, il y a encore l'artifice du songe, hein, c'est-à-dire on rêve un voyage, on ne peut pas admettre directement que ce voyage soit fait en réalité, donc c'est un songe, il contourne la difficulté du voyage en se réfugiant dans le rêve, quelque part, mais il fait quand même un voyage lunaire. Et ce voyage lunaire, ce saut dans l'espace, est aussi un saut conceptuel d'une certaine manière. Alors Kepler, c'est quelqu'un de très sérieux, hein, puisque par exemple, c'est aussi lui qui va développer la connaissance astronomique en ayant recours par exemple aux observations à la lunette. Ici vous avez les observations de Galilée à la lunette astronomique en 1610, où il observe le système jovien, c'est-à-dire Jupiter et ses quatre satellites, Io, Ganymède, Europe et Callisto, ceux qui sont des lecteurs de ciel et espace. Ils savent que dans les éphémérides de ciel et espace, on peut voir la position des satellites de Jupiter. Vous voyez, Galilée en 1610, Kepler et tous les autres avaient déjà, vous voyez, la même réflexion, le même regard déjà que nous avons toujours aujourd'hui, des siècles après, sur l'univers. Donc le songe de Kepler n'est pas du tout une fantasmagorie, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, si on était anglo-saxon, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le premier texte de hard science fiction. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la science-fiction, vous savez que lorsque les anglo-saxons parlent de hard science, ils parlent en fait de ce qu'on appelle le cœur de la science-fiction, c'est-à-dire les récits à forte probabilité scientifique. Par exemple, Arthur Clarke est un auteur de hard science fiction. Et comme par hasard, Arthur Clarke, c'est aussi un Britannique, comme Bacon et comme Thomas More. On avance encore. Vous voyez, je passe pas mal de temps sur le grand siècle. Ben, c'est un siècle que j'aime beaucoup, moi, le grand siècle, parce qu'on se rend compte que le 18e, le siècle des Lumières, et même l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, finalement, n'aurait pas existé sans ce siècle immense de découvertes scientifiques et de mutations politiques qui est le 17e siècle. En 1658, on est là, un libertin du grand siècle visite les autres mondes. En 1658, un libertin du grand siècle visite les autres mondes. Alors,